Midi 44 minutes, on vous rappelle que la programmation du Festival d'été de Québec est sortie. On a fait un segment avec Véro Bergeron là, qui nous parlait de ses premières impressions, qui nous présentait les gros groupes là, à surveiller. Le segment va être disponible dans les prochaines minutes sur l'application Boulevard, si vous voulez réécouter ça. Très content pour ma part, Motley Crue.
Ouais.
Puis je me joins à un auditeur qui m'a écrit, qui nous a écrit par texto en disant la vie des gars de Motley Crue. Puis le fait qu'il soit encore en vie aujourd'hui fait en sorte qu'on peut croire à la vie éternelle.
C'est incroyable. Ce texto-là, et ça accroche. Puis Motley Crue qui va finir le Festival d'été de Québec la dernière journée sur les plaines avec Seater notamment.
Parfaite clôture. Moi, je me demande honnêtement si... Est-ce la drogue qui fait en sorte qu'on vit aussi longtemps? C'est une farce en passant, là, je ne fais pas la promotion de... Mais il y a tellement de rockers qui survivent à... ce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils survivent. C'est-tu parce que, justement, ils sont tellement tout le temps en train de danser, chanter, que physiquement, ils se sont entraînés toute leur vie? C'est quoi? Ça peut pas être la drogue, là. Je peux pas... C'est une farce, là, mais il y en a beaucoup qui survivent puis qu'on se demande ce qui se passe.
Oui, bien, c'est le cas des gars de Motley Crue qui sont encore en vie. On regarde les gars...
Les Rolling Stones. Les gars des Rolling Stones, je m'excuse.
Mick Jagger. On dirait qu'il est mort depuis 30 ans, mais sa face...
Puis il danse mieux que toi.
Il danse mieux que moi.
Il danse mieux que toi depuis toujours.
Hey, midi 46, on vous invite jeudi soir, si ça vous tente de venir faire un tour. On va être au centre de glace où l'équipe de Boulevard, donc c'est des employés de Leclerc Communication, dont je fais partie. Il va y avoir aussi Gab Marino, Martin Dallaire va être là, Jeff Fortin, Maxime Larouche. Nous, on va être sur la glace contre les auditeurs. Un band, pas un band, mais une équipe qu'on a choisie, une gang de tripeurs. Puis il va y avoir énormément d'animation ce soir-là, jeudi. Ça vous tente de venir faire un tour, Tom? C'est à quelle heure?
C'est à 19h demain, donc 21 mars, Centre de glace Intact Assurance. Ça va être une belle rivalité sur place. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, l'équipe Boulevard va être là, mais il y a une autre équipe, une équipe d'auditeurs, les Boutons en feu, qui vont être là. Puis ce qui est cool, c'est que cette équipe-là se rassemble pour la première fois en 5 ans. Donc, match face à cette équipe-là de Alexandre Leroux. C'est Reg qui va coacher l'équipe d'auditeurs gagnants. Denis et Véro vont coacher l'équipe de Boulevard, comme tu l'as dit, avec notamment Marceau, Jeff, Max. Puis c'est pas juste, comme tu l'as dit, Yann, un match de hockey, c'est complètement la totale. Audrey qui devrait être là pour chanter l'hymne national. Je vais être là pour faire l'annonceur en maison. Je vais vous pousser les meilleurs tunes de la business.
Il va y avoir des prix pour les auditeurs.
Des jeux, des prix. 1 500 $ de prix à gagner sur place avec notamment, merci à Défi Évasion, Béné, La Forfaiterie, des super bons restos aussi, comme le Bistrot L'Atelier. Donc soyez là demain, 19h. Même si vous jouez pas, venez vous asseoir dans les estrades. On a des cadeaux pour vous autres. On va se faire du gros plaisir. Santé Tact Assurance.
Hot and cold du côté de ce qui s'est passé avec le Festival d'été de Québec. Dernière nouvelle qui vient de sortir, c'est peut-être vers un recours collectif. Parce que la vente de billets, vous savez, ça a été en un claquement de doigts hier. En 5 minutes, tout était vendu pour Desjardins. Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec l'ouverture de la file d'attente devancée, là, beaucoup de gens pensaient que c'était à midi puis se sentent leurrés là-dedans. Ceux qui s'étaient connectés à 11h puis que finalement ont vu leurs collègues et autres être capables de mettre la main sur des billets avant eux en comprenant pas pourquoi ils avaient eu accès à la vente avant, justement, sont mécontents. Et ils ont parlé à des avocats et autres, déjà certaines personnes, en disant que ben ils ont subi un préjudice. Fait que là, on part avec peut-être un recours collectif avec ce qui vient de se passer.
J'espère que non, parce que je pense que les gens au Festival d'été de Québec sont très, très, très bien intentionnés de voir qu'on pourrait leur créer des problèmes parce qu'il y a certaines failles dans le système.
Puis ils disent on n'a pas eu de courriel pour nous aviser que finalement était devancé. Ouais. Fait que là, on subit un préjudice.
Je ne sais pas. T'sais, c'est toujours bien juste un festival d'été. Je te dirais que si leur vie était en danger ou s'ils avaient pris un produit pendant 6 ans...
Moi, ma vie sera en danger le soir de Post Malone et Motley Crue.
Je comprendrais, mais là, c'est toujours bien juste un festival, les amis. Puis vous allez être capable de vous procurer des billets avec vos amis ou encore par l'entremise de l'achat de billets sur les réseaux sociaux. Hey, notre ami Louis Gauthier est là. Je ne sais pas dans quelle ville il est, dans quel village, dans quel pays. T'es rendu où, là, mon ami?
New York, New York. Québec.
T'es directement à New York même?
Non, pas loin de East Rutherford, là. Peut-être l'autoroute, la 2e ou 3e autoroute la plus passante en Amérique du Nord, la New Jersey Turnpike.
Tu nous entendais tantôt parler de Garth Brooks. Là. Garth Brooks, penses-tu qu'on va l'avoir un jour au Festival d'été de Québec?
Écoute, moi, j'en ai vu beaucoup, 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 beaucoup de show country. Je me suis promené partout aux États-Unis pour aller en voir. Garth Brooks, Kenny Chesney. Le seul que j'ai été capable de voir, c'était Blake Shelton au Wells Fargo Center à Philadelphie. J'ai vu Luke Bryan, j'ai vu Florida Georgia Line. J'en ai vu quelques-uns, là. Je peux vous dire que Garth Brooks, Kenny Chesney, c'est très, très dur. Kenny vient souvent à Boston. Puis, très difficile d'avoir des billets. Quand il va là, c'est à peu près trois soirs en ligne.
C'est plein, Garth Brooks, hein? C'est tout le temps plein.
C'est plein. Garth Brooks, en plus de ça, son épouse, Trisha Yearwood, qui est une des vedettes country féminines des années 80-90, participe à son spectacle. Tim McGraw, je l'ai vu à Toronto deux fois avec Fayfield. Puis ça coûte très cher. Je peux vous dire, là, j'essaie d'avoir des billets de Kenny Chesney, là, c'est sur ma bucket list. Quand je serais capable d'en avoir à peu près à 1300 US le billet. Ça vous donne une idée, là. Alors, ils sont très demandés. C'est des artistes que si on voit un jour à Québec, ça va être en fin de carrière, malheureusement.
OK. Louis, on parle de politique internationale. Jusqu'à maintenant, aux États-Unis, comment ça va? Le Trump est en train d'essayer de se trouver 500 millions de dollars là, pour payer sa caution. Il va-tu être obligé de payer? Il va-tu réussir à trouver son 500 millions?
Bien, il a le 500 millions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une compagnie d'assurance qui va couvrir ça. Puis même, lorsqu'il est allé devant le juge à la cour, à New York, il est allé avec des souscripteurs d'assurance en disant que c'est impossible. Il n'y a même pas un regroupement qui va aller chercher ça. Puis là, bien, il essaie d'étirer la sauce parce que lorsque la Cour suprême des États-Unis va se prononcer justement sur l'ensemble de l'œuvre, bien, ça risque de tomber, ce procès pénal-là. Là, on est vraiment dans la préparation, c'est-à-dire que hier, Mike Cohen, puis Cindy, la danseuse, là, eux autres, ils ont le droit de venir parler pendant le procès. Donc, ça, c'est passé. On est en train de préparer la poutine pour le procès, mais il y a encore plein de délais. Puis là, 500 millions, si le juge a refusé, bien, il va aller en cour d'appel. Si la cour d'appel refuse, il va aller en cour suprême. C'est une histoire qui va de toute façon se terminer à la cour suprême. Puis je vais vous rappeler que le dernier jugement de la cour suprême qui a été donné, 9-0, là, ça veut dire beaucoup sur la suite des choses. Donc, trop des fois, c'est comme pas assez. Puis c'est pour ça que la Cour suprême est en train d'effacer ça du revers de la main.
Donc, est-ce qu'il pourrait descendre la caution de 500 millions?
Non, la caution va demeurer parce que c'est déjà un jugement. Alors, pour aller défaire le jugement de la caution, il faudrait aller faire un procès sur la caution. C'est comme ça que ça fonctionne ici aux États-Unis. Malheureusement, c'est le même. Là. La caution est devenue partie du jugement. Donc, ça fait partie du jugement. Alors, pour aller la défaire, pour aller la diminuer, la seule façon, c'est de trouver l'argent, de mettre une garantie quelconque, puis il ne veut pas mettre ses immeubles là-dessus. Parce que ses immeubles sont relevés directement dans un holding qui est détenu, oui, par sa famille. Mais là, la caution est demandée à Donald Trump et ses deux fils. Okay. Alors, là, il faudrait aller mettre des immeubles en caution, puis ça, il ne veut pas ça.
Donc, il y a une grosse stratégie au travers de ça. OK, intéressant.
Et voilà.
Le topo Haïti, où est-ce qu'on en est rendu actuellement? Ça brasse comme pas possible depuis meurtre de leur président. Ils n'ont jamais réussi à être capables de remettre la paix à Haïti. Là, on attend l'aide internationale. Qu'est-ce qui va se passer? À qui ça profite pour ça?
Bien, c'est ça, Yannick. La question, c'est à qui ça profite? Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, Ariel Henry est toujours en poste comme premier ministre.
Ben, il a annoncé qu'il démissionnait.
Il annonçait qu'il démissionnait, mais c'est très intemporel. Hein? C'est très... on ne sait pas quand, puis on ne sait pas quand, comment, puis de quelle façon ça va se faire. Il a dit que lorsqu'il y aura un président transitoire qui sera nommé, c'est parce que la Constitution américaine ne permet pas une présidence transitoire. Ça prend des élections. Et présentement, c'est une situation anarchique qu'il y a en Haïti, donc il n'y aura pas d'élection présentement. Mais à qui ça sert? La vraie question, c'est à qui pourrait servir un règlement de la sorte?
Moi, j'ai parlé avec un historien. Louis, j'ai parlé avec un historien, le spécialiste d'Haïti. Le gars venait de là. Puis constamment, là, ça remonte depuis Papadoc puis Bébédoc, là, il parlait de l'interventionnisme au niveau des États-Unis envers Haïti. Ça semblait toujours être de la faute des États-Unis, ce qui se passait à Haïti, alors que moi, dans ma tête, à un moment donné, faut que tu te regardes le nombril puis que tu te dises, peut-être que c'est pas toujours de la faute des autres, ça peut être aussi de notre faute, puis prenons-nous en main.
Bien, écoute, je suis d'accord avec lui sur un point. Oui, la CIA est omniprésente en Haïti. Pourquoi? Parce qu'au temps de la pandémie, Haïti, à partir du... Le port ou l'aéroport de Port-au-Prince est situé comme au nord-ouest de l'île. Donc, c'est un passage, il y avait un corridor qui avait été fait pour se rendre sur les côtes du Venezuela, du Honduras. Et on réussissait à passer des gens qui voulaient suivre par la terre ferme, qui voulaient fuir par la terre ferme en passant par le Honduras pour monter vers les côtes du Mexique puis traverser aux États-Unis lorsqu'il y a eu la grosse vague migratoire là, en 2021. Donc, on a établi ce corridor-là, puis la CIA l'a surveillé parce que une fois arrivé au Honduras, bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, des filles, de jeunes adultes qui ont été kidnappées, qui ont été violées, puis qui ont été gardées. Puis les gars, pour en rançon, servaient de mules pour monter la drogue vers le nord, donc vers la frontière américaine. Alors, la CIA protège ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on protège? C'est l'apport militaire ou d'armement que fait le Venezuela à Haïti, c'est-à-dire aux fractions comme les guerres de gangs et tout ça. Parce qu'on se demande où est-ce qu'ils prennent leurs armes, et les armes viennent du Venezuela, puis on vient de se rendre compte que les armes, ce sont des armes russes. Alors, on sait que le Venezuela, son principal partenaire économique, ça se trouve être la Russie, et en échange... que le Venezuela puisse fournir des armes, bien, elle fournit également, parce qu'on l'a remarqué là, sur les lignes de front, on a certains éléments militaires vénézuéliens, donc des soldats qui participent à l'effort de guerre russe envers l'Ukraine. Donc, la CIA surveille ça énormément. Et c'est pour ça, ça a l'air d'être une zone, on dirait un tourniquet de problèmes à Haïti. Autant qu'on regarde ce qui se passe dans le coin du port puis du coin de l'aéroport qui est détenu par le crime organisé en Haïti, le corridor de passage de migrants qu'on a vu qui s'est fait entre Haïti et l'Honduras, et maintenant, on vient de découvrir la façon dont les armes rentrent, ça vient du Venezuela, puis on se rend compte que ça vient de l'armée russe. Alors, on voit que c'est un problème, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est le Venezuela qui se garde? On se disait là, la dernière fois, est-ce que c'est le Venezuela qui se tient en fraction afin de rentrer dans Haïti puis d'envahir la perte des Antilles. Ça me surprendrait un peu parce que tu as quand même la République dominicaine qui est au bord, qui partage l'île.
Mais tout l'argent qu'on a envoyé là, Louis, qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'a jamais aidé? Toute l'aide. Moi, j'ai des amis qui ont été en mission là-bas, qui, autant comme policiers ou encore comme militaires, qui m'ont dit, tu sais, Yann, ces gens-là sont tellement habitués à avoir tout le temps de l'aide quand il y a des tragédies qu'ils comprennent même plus l'idée de se prendre en main, c'est quoi? Ils ne sont même plus capables de se prendre en main parce que quand il y a un genre de tremblement de terre ou un ouragan, ben il y a tout le temps de l'aide extérieure, puis ils attendent que tu arrives pour commencer à travailler. Tu sais.
Ben oui, mais écoute, l'argent qu'on envoie à Haïti n'a même pas le temps de se rendre où elle doit servir
à
Haïti.
C'est ça, tu sais, à un moment donné.
Et il est là le problème.
On fait quoi?
Parce que c'est une situation qui est très anarchique. On arrête d'en envoyer, je l'ai dit hier. Si Haïti est devenue une plaque tournante de problèmes, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour le transfert des armes, que ce soit, peu importe, que même on parle peut-être que Haïti soit rendu à une forme de paradis fiscaux, un paradis fiscal, c'est-à-dire pour cacher des hommes, des sommes d'argent obtenues par le crime, obtenues par des prises de possession sur certains territoires. Puis on ne peut pas la mettre dans les banques parce que même toutes les banques sont maintenant surveillées. Donc, on la cache sur place en Haïti. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'enquête dont je vous parle présentement qui sont très documentés. Puis j'ai posé des questions justement à des gens avec qui j'ai travaillé dans mon ancienne vie. Puis c'est encore le même modus operandi, mais je vous dirais quatre fois plus important qu'il l'était il y a 30 ans.
Donc, d'envoyer l'argent là-bas, c'est jamais la solution parce que c'est tout le temps détourné. Puis tous ceux non. qui ont été à la tête d'Haïti dans les dernières années, c'est tous des gens qui ont profité de l'argent peut-être qu'on leur envoyait pour avoir de plus beaux jours. Puis je pense encore à Papa Doc puis Bébé Doc qui ont été épouvantables envers leur population. Puis là, actuellement, tu as un barbecue, un gars qui se nomme Barbecue, qui est membre du principal gang de rue là-bas. Puis lui, c'est un ancien policier. Tout est croche.
Bien, tout est croche, puis juste avoir l'écart qui existe entre la classe politique, qui sont les ultra-riches, et les pauvres, qui, eux, n'ont qu'à se rabattre vers les gangs de rue, qui, elles aussi, ont de l'argent. Elles aussi, ces gangs-là, sont capables d'avoir des ressources. Tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas capable de couper le fond de l'histoire, ça va se faire par une intervention militaire, musclée, internationale, si on veut régler le problème. Mais est-ce qu'on a vraiment un intérêt à le faire? Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe sur l'île.
Ça, il faudrait intervenir parce qu'il y a des ressources à aller chercher ou autre. C'est un peu malsain, là, mais je veux dire, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Souvent, tu vas le faire déployer de l'argent puis tout, si tu as quelque chose à tirer avantage. Là.
Les ressources, Pascal, c'est simple. Il faut nettoyer la terre parce qu'elle est tellement contaminée par ce qui est arrivé. Écoute, depuis le dernier tremblement de terre, on n'a même pas fini de nettoyer. Ça fait déjà un bout de temps. Alors, ça te donne une idée. Avant d'aller penser de prélever des ressources, que ce soit la canne à sucre, que ce soit le café, que ce soit peu importe, c'était un paradis fruitier, Haïti. Puis vers les montagnes, là, vers la frontière avec la République dominicaine, qu'il n'y a plus absolument plus rien qui se passe là. C'est été brûlé. Les forêts n'existent plus parce qu'on s'en est servi pour se faire des abris, des maisons de fortune. Alors, c'est le dawa total en Haïti. Donc, là, il faut arrêter de donner de l'argent. Donner de l'argent à Haïti, c'est comme faire un feu de camp l'été prochain et puis mettre de l'argent dedans. C'est la même chose.
Louis, je te souhaite de passer un beau voyage à New York. Essaie d'en profiter pour nous autres qui sommes dans la neige présentement sur Québec.
Oui, je le sais, ici, il fait 15 degrés.
Écœure-nous pas avec ton
bonheur. Arrête, Louis!
Ben oui, c'est pas grave. Hey, profitez du Little Chicken Fry qui s'en vient à Québec cet été.
Yes.
Puis, pour Pascal qui pensait avoir vu Zach Brown Band, elle se trompe avec Luke Combs qui est venu sur les plaines puis qui est venu donner un spectacle aussi au Centre Vidéotron. Ah,
c'est un autre band country à trois mots là, que j'avais vu.
Florida Georgia Line?
Non.
Non plus? Peut-être.
Hey, Louis Gauthier, merci!
Non, ils sont venus, eux autres, une dizaine d'années à FGL.
Salut, Louis. Merci. L'excellent Louis Gauthier qui était avec nous en direct de New York. On parle régulièrement d'actualité internationale avec lui, mais c'est d'une tristesse. Moi, je ne pense pas aux dirigeants à Haïti. Je ne pense pas aux communautés internationales qui envoient tout à l'heure. Je pense aux gens qui restent là, qui sont pognés dans la misère constamment entre les politiciens, entre les policiers, puis entre les gangs de rue. Puis tout ce beau monde-là ne s'entend pas.
Puis en plus de ça, ils sont tellement placés dans une place sur la planète où tout arrive. Tremblement de terre, il y a des tempêtes tout le temps, puis en plus, ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes. C'est vraiment un pays là, désastreux dans l'ensemble.
Dire qu'on est chanceux d'être né ici, là, c'est exactement le parallèle qu'on peut faire avec Haïti. Quand on les voit fuir leur maison, là, la dernière image que j'ai vue, moi, c'est un papa de famille avec un tapis semi-roulé sur l'épaule. Deux genres de cruches, mettons, qu'on achète du gros sel, là, nous autres, l'hiver, là, pour déglacer. Puis les enfants avaient deux sacs de plastique dans les mains, puis ça, c'était le contenu de la maison. Puis ils fuyaient vers absolument rien. Mais ils fuient à leur maison.
Oui, c'est d'une tristesse, mais de cesser d'envoyer de l'argent, ça nous torture un peu par en dedans. Parce que tu veux aider, mais
on voit que ça aide pas.
Quand tu jases avec des gens qui suivent ça depuis des décennies et des décennies, l'argent n'a jamais rien. L'argent qu'on a envoyé à Haïti n'a jamais rien changé. Les missions qu'on a faites, les policiers qui ont travaillé extrêmement fort, qui sont allés là-bas mettre leur vie en danger, qui devaient faire des interventions des fois de quelques secondes parce que sinon ils savaient que les gangs de rue arrivaient puis ils leur auraient tiré dessus. Ben, tu sais, il y avait un stress. Ils se sont investis corps et âme là-bas, puis ça n'a rien changé. Ça a peut-être changé là, pour les semaines suivantes, mais après ça, ils sont venus ici, ils voient ça, puis ils se disent « Hey, moi, je suis un policier, j'ai été donné de la formation là-bas, ça n'a rien fait. » Puis je pense que c'est pas un de mes amis, je pense que c'est William Trudel qui a déjà été en mission à Haïti. Ou peut-être Jean-François Vézina qui avait raconté ça dans une entrevue, qui était policier aussi à Ville de Québec. Mais c'est particulier, là, tu formes un policier, puis tu es en mission avec lui pendant 6 mois, Puis 3 ans plus tard, tu retournes en mission et ce policier-là est plus policier, fait partie des gangs de rue. Mais tu lui as donné sa formation.
C'est incroyable.
Fait qu'il connaît tes stratégies. Il sait comment tu vas agir dans telle ou telle circonstance. Ça, c'est un des deux qui avait raconté ça.
Mais... Les deux sont allés, je pense, ensemble même à un moment donné. Ouais, donc.
Quand vous leur jasez, là, ils ont des histoires à raconter. Ça n'a comme pas de bon sens. 1h04, on s'arrête quelques secondes. 418-971-1021, 418-971-1021. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on va faire un petit résumé des bands et des chanteurs-chanteuses qui seront présents au Festival d'été de Québec. Puis peut-être parler aussi de certains dossiers concernant le Festival d'été de Québec. Je veux juste vous dire que Louis Bellavance sera dans nos studios cet après-midi entre 16 et 17 heures là, avec Denis et Véro. Et puis, on aura l'occasion de lui jaser aussi à ce moment-là.
En savoir plus.
Entre 16 et 17 heures pour en savoir plus sur le Festival d'été de Québec. Sinon, après, nous, après la pause, on fait un résumé. Marceau le midi.